Merci encore pour vos prières pour l'Institut biblique. Il est vrai que les besoins en termes de manque de pasteurs formés en Europe francophone, les besoins restent cruels. Et même si nous sommes encouragés à l'Institut biblique par la qualité, même la quantité des étudiants, l'impératif reste de prier afin que Dieu suscite plus de serviteurs de l'Évangile pour les années à venir. Si vous pouviez être en train de prier prioritairement pour la rentrée de septembre, là encore, nous sommes encouragés à ce stade, mais les besoins sont considérables. J'en profite juste pour préciser que l'Institut biblique forme aussi des personnes qui souhaitent profiter d'une instruction biblique pour leur propre vie et pour leur propre ministère en église locale, même si ces personnes ne visent pas à servir le Seigneur à temps plein. Et donc le magazine qui est à l'issue dans le hall d'entrée peut vous servir dans vos choix si jamais vous vouliez nous rejoindre en semaine à partir de mardi ou un autre jour. Cette semaine, le choix des séries de cours qui seront dispensées. Et aussi, si vous n'êtes pas disponible en semaine, il y a deux séries de cours qui commencent samedi. Une série sur l'Épître aux Hébreux et une autre sur la doctrine des Écritures. Pourquoi est-ce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que tu es capable de défendre cette réalité? Et en fait, si jamais tu voulais dès maintenant commencer à prendre tes dispositions pour l'année académique prochaine sur le site de l'IBB, tout notre programme allant jusqu'en juin 2027 est publié. Donc, profitez-en, informez-vous, mettez des jours à part dans l'agenda et ainsi de suite. Si... Parce qu'on a parlé de ça par le passé, si vous avez prié pour des visas pour nos sœurs britanniques qui étudient à temps plein à l'Institut en première année, il y a une bonne nouvelle, l'un des trois visas a été octroyé il y a quelques jours. Mais les deux autres sœurs sont toujours en train d'attendre. Vous aurez besoin donc du passage Luc 6, 1 à 11 qu'on va lire dans quelques instants et aussi de la feuille qui présente le déroulement de la prédication. Le 25 avril 2010, il y a un candidat pour le rôle de pasteur d'une église à Nice, dans le sud de la France. Il est étudiant en théologie dans un institut biblique en France. Il prêche dans cette église en vue d'être embauché en tant que pasteur. Après sa prédication, à la suite de la rencontre du dimanche matin, deux des anciens de l'église l'invitent au restaurant en vue de mieux faire connaissance avec lui. Le candidat refuse cette invitation parce que le dimanche, explique-t-il, est censé être un jour de repos. Aller au resto cautionnerait le travail du dimanche des cuisiniers et des serveurs et ça ne serait pas à la gloire de Dieu. Est-ce qu'il m'est permis, à moi qui suis croyant, d'aller au resto le dimanche? Est-ce qu'il m'est permis d'aller au resto tout court? C'est l'expérience de nombreux croyants de ne pas savoir ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime dans la vie chrétienne, en tout cas là où la Bible ne s'exprime pas directement. Si je suis croyant, est-ce qu'il m'est permis de me faire tatouer, de me faire vacciner, de me maquiller, Est-ce qu'il m'est permis d'écouter du rap non chrétien ou juste du rap chrétien? Est-ce qu'il m'est permis de travailler dans l'armée? Jusqu'où m'est-il permis d'avoir une intimité physique avec celle ou celui que je fréquente? Au sein du mariage, nous est-il permis d'utiliser des moyens de contraception? Est-il permis de pratiquer le yoga? Est-ce qu'il m'est permis d'aller en discothèque? Est-ce qu'il m'est permis de boire de l'alcool? Est-ce qu'il m'est permis de regarder Game of Thrones? Si je suis croyant, est-ce qu'il m'est permis d'avoir un compte TikTok? Est-ce qu'il m'est permis d'utiliser les pronoms préférés d'une personne transgenre? Est-ce qu'il m'est permis de prendre l'avion alors que je devrais penser à la planète? Est-ce qu'il m'est permis de jouer au foot le dimanche? Ai-je le droit de faire des courses le dimanche? Notre passage devrait nous éclairer à propos de telles questions. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te glorifions de ce que ta parole est suffisante pour que nous soyons en mesure de te plaire dans tout domaine de notre vie. Éclaire-nous maintenant par rapport à ce type de questions et que cela puisse être reposant pour notre âme. En effet, donne-nous ce matin de boire au torrent de tes délices, comme on lit dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Luc 6, les versets 1 à 11. Comme il traversait des champs un jour de sabbat, ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir frottés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous même pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains offerts, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, alors qu'il est permis aux prêtres seuls d'en manger ?» Et il leur disait, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Un autre jour de sabbat, il se rendit à la synagogue pour enseigner. Il se trouvait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Mais ils connaissaient leur raisonnement. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Se leva, se tint debout, et Jésus leur dit, « Je vous le demande, qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou d'en causer la perte? » Alors, promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fit, et sa main fut rétablie. Rempli de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils pourraient faire contre Jésus. Est-ce qu'il m'est permis de... Nous ne sommes pas les premiers à poser cette question. Notre passage-là se compose de deux sous-parties, d'où le fait que j'ai laissé un petit moment de pause là à la fin du verset 5. Et on trouve cette question, est-ce qu'il m'est permis de... en filigrane dans les deux parties. Est-ce qu'il m'est permis de... Mon but ce matin est de nous persuader de remplacer cette question par une autre question. Au regard de notre passage de ce matin, une autre question prime. Quelle autre question? Eh bien, voyez avec moi comment joue le statut de Jésus-Christ dans le premier épisode, les versets 1 à 5. Dans cette première partie, la question est de savoir s'il est permis aux disciples de Jésus d'arracher des épis, de les frotter dans leurs mains et de les manger à un moment particulier. Jésus et ses disciples sont en chemin. Ils suivent une route qui coupe à travers les champs d'un agriculteur, ce qui n'a rien d'étonnant à l'époque. Ils sont en train de traverser un champ de blé. Peut-être que nous, on a plus l'habitude d'être dans un champ en rase campagne et de tomber sur des murs et de nous en servir. Selon le verset 2, des personnes religieuses appelées pharisiens estiment qu'il n'est pas permis de se servir librement d'épis de blé lors du jour en question, le jour de repos, le sabbat, le samedi à l'époque. Le problème n'est pas le fait de manger les épis d'autrui, c'était explicitement permis dans la loi de Moïse. Mais est-ce qu'il est permis de faire cela lors du sabbat? Les pharisiens considèrent que arracher les épis et les frotter dans les mains n'est pas admissible parce que selon la loi de Moïse, il faut se reposer lors du sabbat, il faut éviter le travail. Et on aurait envie de dire, mais quand même, ce n'est pas travailler. Soyons sérieux, c'est quoi le problème? C'est tirer, frotter, on n'aurait pas le droit de s'habiller le sabbat, se frotter les mains lors du sabbat, se gratter le nez, c'est ridicule. Mais Jésus ne va pas dans ce sens-là. Il aurait pu, parce que les pharisiens avaient ajouté des petits commandements à la loi de Moïse, et en réalité, les disciples de Jésus ne sont pas coupables d'avoir enfreint la loi concernant le sabbat. Mais non, Jésus va dans un autre sens et tient un propos assez choquant. Il évoque un épisode rapporté dans l'Ancien Testament où il y a bel et bien une infraction à la loi. Verset 3, Jésus leur répondit, « N'avez-vous même pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains offerts, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, alors qu'il est permis aux prêtres seuls d'en manger. » Vous voyez là, il est permis. Vous pouvez lire plus sur ce qui s'est passé dans 1 Samuel 21. Les pains offerts étaient des pains exposés devant Dieu, disposés en deux rangées de six. C'était placé sur une table dans le lieu saint du tabernacle. Une fois par semaine, il fallait remplacer ces pains, préparer encore 12 pains. Et qu'est-ce qu'on faisait des pains qui n'étaient plus à laisser sur la table? Eh bien, il fallait les consommer, les manger. Mais c'était les prêtres qui devaient les manger. Mais dans cet épisode rapporté dans 1 Samuel 21 et que Jésus évoque ici, ce ne sont pas les prêtres qui en mangent, c'est quelqu'un d'autre. Et sur le papier, en tout cas, ça n'est pas permis. Et pourtant, c'est approuvé Pourquoi Jésus raconte-t-il cela? Est-ce pour dire, ah, vous voyez, ne pas respecter la loi, ce n'est pas un problème? Non, non, non. Pourquoi alors? Tout tourne autour de l'identité de la personne qui mange les pains. La personne qui avait faim dans cet épisode n'est pas n'importe qui. Il s'agit de David. Il s'agit du roi élu. Et lorsqu'on est en présence du roi nommé par Dieu, la question primordiale c'est, suis-je en train d'honorer ce roi? Pourquoi dans un autre épisode en 1 Samuel, Nabal est-il un insensé? Parce qu'il refuse d'honorer le roi élu, David. Comprenons la logique ici. Mettons, tu travailles pour une école ici à Bruxelles et la reine Mathilde va être en visite. Toute l'école a été mobilisée pendant un mois pour préparer cette visite. La propreté est impressionnante. La voilà, elle arrive, rayonnante avec son entourage. Au tout début de sa visite, la reine, à peine arrivée, a juste besoin d'aller aux toilettes. Il y a un WC qui est à deux pas de là où elle est, et les autres se situent au loin, à 200 mètres de là où elle est. Le WC qui est tout près est libre. Mais il y a une règle dans l'école. Ce WC-là est à l'usage exclusif des professeurs. C'est marqué sur la porte. Toilette réservée au personnel enseignant. Qu'est-ce que tu dis à la reine? La réponse n'est pas difficile. Malgré l'interdiction, tu montres du doigt le WC le plus proche et tu lui dis, « Votre Majesté, je vous en prie. » La reine Mathilde est supérieure à cette petite loi-là. Ce que les pharisiens n'ont pas compris, c'est le statut de leur interlocuteur, Jésus-Christ. Ses disciples sont innocents, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est sa personne. Jésus est plus grand que David. Dès les deux premiers chapitres de cet évangile, nous l'avons compris, il est le roi supérieur en gloire et en splendeur par rapport à David. Son règne n'aura pas de fin. Il est le Seigneur, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Il est au-dessus de la loi de Moïse. Il est celui qui détermine les lois. Vous voyez ce qu'il dit dans le verset 5? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Fils de l'homme est une expression qu'on trouve dans Daniel chapitre 7 et qui connote celui qui a le même statut que Dieu lui-même, celui dont le règne est suprême, tout englobant et définitif. C'est lui qui est maître ou seigneur du sabbat. Si les pharisiens sont préoccupés par les règles en lien avec le sabbat, il leur faut comprendre que la personne qui dicte les règles est la personne qui parle avec eux. Et se soumettre à ce Seigneur rime avec joie. Vous vous souvenez des images que Jésus utilise juste avant notre passage? Le marié, le vin nouveau d'un nouveau régime réjouissant que Jésus vient instaurer pour les personnes qui l'accueillent comme maître. Il s'agit d'un roi splendide, Oh, je sais qu'il est difficile pour nous de comprendre cela parce que nous avons l'habitude de croiser sur la scène internationale des dirigeants tyranniques, arrogants, fanfarons, qui sont peu soucieux des uns et des autres. Pas Jésus. Pas Jésus. C'est tout le contraire. Voyons cela dans le second épisode, dans les versets 6 à 11. Merci de vous laisser frapper par la bonté de Jésus-Christ. En arrière-plan de cette seconde partie, Jésus a été en train de guérir des malades. Mais lui serait-il permis de faire cela le jour du sabbat? Les experts en matière de la loi appelés scribes et les pharisiens considèrent que ce serait illégitime. Vous voyez le verset 7. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Nous lisons que Jésus connaît les raisonnements, les pensées des scribes et des pharisiens. Voilà encore une indication comme quoi il est Dieu en chair et en os. Et encore une fois, Jésus refuse de jouer à leur jeu. Il demande à l'homme dont la main est paralysée de se lever et de se tenir au milieu. Les projecteurs sont braqués sur cet homme maintenant. Est-ce que Jésus va le guérir ou non? On imagine le suspense et le silence glacial à cet instant. Jésus aurait pu dire aux scribes et aux pharisiens, « Il n'y a rien dans la loi qui m'empêcherait de régler ce problème de paralysie lors du sabbat. » Mais qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Je vous le demande, qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou d'en causer la perte? Quel est le sens de cette question sinon de mettre au défi ses interlocuteurs, les scribes, les pharisiens? Dans quel sens les scribes et les pharisiens sont-ils en train de causer la perte d'une vie, pourrait-on se demander? On pourrait penser que sur le papier, ils ne sont qu'en train de prolonger la souffrance d'un homme dont la main est paralysée. Mais non, ils sont en train d'aller plus loin que ça. Ils sont proactifs en faisant le mal, verset 9. Ils cherchent à accuser Jésus, verset 7, à détourner les uns et les autres de Jésus. Et avant la fin de l'épisode, ils sont, verset 11, remplis de fureur. Ils veulent écarter Jésus de la scène. Alors que le projet de Jésus est de sauver des vies. C'est sans doute dans ce sens-là qu'il vise à détruire la vie des uns et des autres, ces scribes et les pharisiens. Et donc, nous avons compris que Jésus ne dit pas simplement « guérir le jour du sabbat, c'est tout à fait permis ». Au contraire, c'est comme s'il disait « n'avez-vous pas compris qui je suis ?» Je suis celui qui fait le bien et qui sauve la vie. Il faudrait en effet associer cette guérison à son grand projet, à son programme, à son manifeste exposé pour nous dans le chapitre 4. Il vient pour libérer les captifs, pour pardonner les péchés. Il faut associer les deux à ce stade du ministère de Jésus. Vous vous souvenez de la semaine passée? Jésus qui dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. dans ce miracle, dans notre passage, nous sommes en présence d'une petite anticipation de ce que ça va donner dans le nouveau cosmos parfait à venir pour ceux dont les fautes ont été pardonnées, ceux qui se sont repentis, celles et ceux qui ont accueilli Jésus comme leur Seigneur splendide et parfaitement bon. Est-ce ton cas? Au fond, il n'y a pas de terrain neutre face à Jésus. Soit on est dans son camp, soit non, soit on est hostile vis-à-vis de lui et on voudrait l'écarter de la scène, auquel cas on doit faire face au jugement terrifiant dont il est question dans le chapitre 3 de cet évangile. Soit on accueille Jésus dans sa vie, en reconnaissant qu'il est le maître de l'univers qui fait le bien. Et l'auteur Luc ne nous permet pas de faire abstraction du moyen par lequel Jésus fera le bien suprême. La semaine passée, nous avons entendu que Jésus, le marié, devra être enlevé. Cette semaine, nous sommes face à une hostilité grandissante dont le point culminant se trouve dans le verset 11, dernier verset de notre passage. Les scribes et les pharisiens sont furax et discutent entre eux sur ce qu'ils pourraient faire contre Jésus. Et ultimement, ses ennemis le mettront à mort sur une croix. Mais c'est justement là où Jésus subira la punition à la place d'autres personnes, donnant lieu au pardon des fautes. Chez notre maître, on a donc affaire à une bonté qui lui coûte cher, à une bonté sacrificielle. Et cette bonté est aussi le schéma pour une bonté pratiquée par nous qui sommes pardonnés par le Maître. Cette bonté chez Jésus est même le moteur pour une bonté pratiquée par nous. Plus loin dans ce chapitre, Jésus va parler des valeurs et des attitudes que ses disciples devraient adopter. Il parlera d'une disposition à être pauvre ou humble, à aimer ses ennemis, à renoncer à l'hypocrisie, à mettre en pratique ses paroles, les paroles du Seigneur. Et oui, la barre est placée haut, la bonté dans notre vie. Mais combien il est reposant pour l'âme que de se soumettre à l'autorité de notre Seigneur splendide. Tant de personnes dans cette salle connaissent la réalité que Jésus est doux et humble de cœur. Bilan donc de notre passage. Est-ce que nous constatons ce qui se passe dans notre esprit, lorsque nous comprenons le statut de Jésus-Christ et la bonté de Jésus-Christ, le changement de mentalité que cela provoque. Au lieu de poser la question « Est-ce qu'il m'est permis ?», nous posons la question « Est-ce que je connais la bonté de mon Seigneur splendide? Est-ce que je connais la bonté de mon Seigneur splendide? Et comment vivre conformément à cela? Comment puis-je plaire à mon Seigneur si splendide et bon? Et cela change tout. Exemple, il y a deux sœurs en Christ. Les deux ont 25 ans. Les deux choisissent de ne pas se maquiller. Mais la mentalité de l'une et la mentalité de l'autre n'ont rien en commun. C'est le jour et la nuit. On pose la question à Alice d'abord, ça va être Agathe après. Alice, pourquoi est-ce que tu ne te maquilles pas? Sa réponse. Une chrétienne sérieuse ne porte jamais de maquillage. C'est lamentable ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui. Moi, je dis systématiquement aux femmes maquillées, il ne faudrait pas faire comme ça. Si tu es vraiment chrétienne, tu te rends compte? Maintenant, on pose la question à Agathe. Pourquoi est-ce que tu ne te maquilles pas? Sa réponse. La question de maquillage ou pas de maquillage ne m'intéresse pas tant que ça. Il est vrai que je ne me maquille pas. Ce n'est pas une loi pour moi. Je n'imposerai jamais à d'autres personnes. Et d'ailleurs, je pourrais changer de pratique. Merci, Agathe, mais tu n'es pas tout à fait en train de répondre à ma question. Ok, puisque tu me demandes. La réalité, c'est que je suis mu par la bonté de Jésus-Christ. Je sais que mon Seigneur est doux et humble de cœur, et je voudrais l'honorer. J'ai estimé que pour moi, je devrais faire comme ça, pas de maquillage, pour l'honorer au maximum. Pourquoi précisément? Eh bien, on me dit que je suis assez jolie, je ne voudrais pas attirer le regard inapproprié des garçons, ni attirer des désirs sexuels chez eux. Mais je souligne que je ne juge personne à ce sujet. Et en fait, je préfère parler d'autre chose, de l'Évangile. J'ai utilisé un exemple fictif, mais durant ma préparation, j'ai pensé à tant de chrétiens dans nos milieux évangéliques qui sont comme Alice. La première. Il s'agit de personnes qu'on peut appeler des pharisiens évangéliques. Car certes, on est soit dans le camp de Jésus, soit pas, mais ça existe, des personnes qui sont dans le camp de Jésus, mais qui agissent souvent comme des pharisiens. Qu'est-ce qu'elles sont pénibles, procédurières, constamment en train de faire la loi, donner des satisfaisites par-ci, par-là. Je vais protéger l'identité des personnes que j'ai en tête, sauf l'une d'entre elles. Moi. Par la grâce de Dieu, nettement moins aujourd'hui que par le passé. Mais il y a 35 ans ou plus, je me suis souvenu en préparant ce message d'une conversation, j'ai honte de tout cela, mais conversation entre deux de mes meilleurs amis par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ils sont toujours des amis proches. Mais je me souviens d'une conversation entre ces deux amis en ma présence où l'un m'a dit juste carrément de but en blanc, « James, tu es pharisien. » Et l'autre a dit, « Il ne faudrait pas lui dire comme ça. » Mais les deux savaient. Et lorsqu'on est comme ça, pharisien évangélique, on est insécurisé, absorbé par les règles, zélé pour les règles, en train de cocher des cases, en train d'essayer de trouver sa sécurité dans le respect de ses règles, en train d'imposer ses règles à d'autres, et on risque d'avoir une attitude sévère envers les personnes qui ne respectent pas les mêmes règles. Moi, j'étais même critique, à l'égard de quelqu'un qui lisait sa Bible le soir au lieu de lire sa Bible le matin. Oh. Ce livre est recommandé. Les pharisiens évangéliques. Écoutez l'analyse de cet auteur, c'est Michael Reeves, l'auteur, page 49. Ils ont tendance à ne pas tolérer la faiblesse des autres. Non seulement leur autosuffisance les rend personnellement anxieux, mais elle constitue un terreau fertile au poison qui s'insinue autour d'eux. Autrement dit, être comme ça, et on peut être en train de pourrir la vie de l'Église. Est-ce que j'ai dit qu'on ne se posera jamais la question « Est-ce qu'il m'est permis de ?» C'est sûr, il reste des questions éthiques controversées qu'il faudrait viser à régler à la lumière des Écritures. Mais formuler la question ainsi « Est-ce qu'il m'est permis ?» n'est pas optimal à la lumière de notre passage. Posons-nous plutôt la question à la lumière de l'autorité et de la bonté de mon Seigneur. Comment le glorifier au maximum dans ces circonstances ? Y compris, oui, pour la question de savoir s'il y a un sabbat pour le croyant en Jésus-Christ et en quoi cela ressemblerait, sujet que je traiterai en cours durant le semestre qui commence dans 2 jours. À l'insubib, rejoignez-nous, peut-être, si la question vous intéresse. Mais vous avez bien compris que répondre à cette question-là est loin d'être l'essentiel de ce que ce passage met à l'ordre du jour. Beaucoup connaissent C.S. Lewis grâce aux Chroniques de Narnia. Écoutez ce que dit Lewis dans son livre « Fondements du christianisme ». Nous pourrions penser que Dieu demande simplement l'obéissance à un ensemble de règles, tandis qu'il veut en fait des individus d'un type particulier. Et je me permets d'ajouter au regard de notre passage, quel type de personnes ? Des personnes dont le regard est tourné vers l'autorité et la bonté de notre Seigneur splendide. Des personnes qui lui ressemblent. Des personnes remplies de bonté envers les autres. Amen.